En arrivant ce matin, quelqu'un m'a sauté dessus, ben, plus ou moins, pour dire, David, j'ai hâte d'entendre ta devise pour 2024. Alors, certains savent qu'en janvier, j'ai toujours une devise pour l'année, sauf pour 2014, parce que il est impossible de trouver un mot qui rime avec 14. Donc, la devise pour 2024, je ne vais pas l'inclure dans le message, mais dimanche dernier, on m'a demandé de prêcher à Lyon dans une église sur l'évangile de Marc, chapitre 8. Et dans ce message, j'ai pu inclure à la fois ma devise et une citation que je vais vous laisser. Et ça, c'est pas mon message, hein. Mon message, c'est après. La devise est tout simplement, ne cesse pas de croître en 2024. Ou si vous préférez, ne cesse pas de te battre en 2024. Ça, c'est la devise ou le slogan. Et en ce qui concerne la citation, certains savent que je lis pas mal et je viens de lire un livre que j'ai reçu à Noël de la part d'un de nos garçons sur la troisième autobiographie de Henri Lecomte, ex-tennisman que certains ont connu, j'imagine. Et la dernière ligne de son autobiographie, il dit ceci. Et je crois que ça correspond tout à fait à la vie du chrétien. Apprendre, virgule. Avancer, virgule. Rebondir, point. Encore et encore. Pas mal comme devise, si on veut, ou comme citation pour le chrétien. Apprendre, avancer, rebondir. On prend des coups. Il en a pris. J'en ai pris. Vous en avez pris. Mais on rebondit grâce, non pas à notre nous-mêmes, à nous-mêmes, mais grâce au Seigneur. Alors, ce matin, nous allons lire quelques versets dans le psaume 107. Je vous invite à trouver le psaume 107. Et avant de lire ce texte, je vais faire une petite introduction sur le livre des psaumes. Très bien, merci. Le livre des psaumes. Premièrement, il s'agit d'un livre de louanges. Le titre officiel du livre des psaumes est tout simplement le livre des louanges. Et le livre des psaumes, comme vous savez peut-être, fait partie de ce qu'on appelle les livres de sagesse dans l'Ancien Testament. Il y a 5 livres de sagesse. Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Deuxième chose par rapport aux psaumes. Le livre des psaumes est divisé en 5 livres. Et si vous lisez attentivement les psaumes, vous allez voir que de temps en temps, c'est marqué livre 1. Et puis, au début de psaume 42, livre 2. Et au début du psaume 73, livre 3. Parce qu'il y a 5 livres en tout dans le livre des psaumes. Et chose intéressante, chaque livre se termine soit par le mot Amen, soit par le mot Alléluia, soit par le mot Amen et Alléluia. Ne regardez pas maintenant, sinon vous n'allez pas m'écouter. Mais en tout cas, regardez ça à la maison. Et vous allez voir que chaque livre se termine de cette manière-là. On dit les psaumes de David. Mais on a tort quand on dit que les psaumes sont les psaumes de David. Parce que David a écrit à peu près la moitié. Il a signé au moins 73 psaumes. Mais il y a d'autres auteurs qui ont écrit des cantiques. D'ailleurs, David est appelé le chantre agréable. Alors, je sais chanter, mais on m'a jamais dit que j'étais un chantre agréable à écouter ou à regarder. Bon, je ne cherche pas à être un chantre agréable. D'autres personnes ont écrit des psaumes. Les fils de Corée, 11. Asaph, 12. Salomon, il en a écrit combien? 2. Un certain nombre, très bien. Voilà, quelqu'un d'être très intelligent. 72 et le 127. Moïse, homme de Dieu, il en a écrit 1. Et puis, il y a une 50aine qui sont inconnues. Et j'aimerais dire haut et fort que William Shakespeare n'a pas écrit un psaume. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, c'est parce que la Bible du roi Jacques VI, un fils de Marie Stuart, cette Bible, cette traduction est sortie à l'époque de Shakespeare. Et certaines personnes disent aujourd'hui, mais Shakespeare a écrit un psaume. Et quand on prend le psaume, quand on prend la Bible du roi Jacques, qui est sortie en 1611, je crois bien, dans un psaume, en anglais, dans cette version-là, si on compte, c'est le psaume 46, si on compte 46 mots depuis le début, on tombe sur le mot shake, ce qui veut dire secouer. Si on compte 46 mots depuis la fin, on tombe sur le mot spear, ce qui veut dire javelot. Et les gens disent, mais Shakespeare, il a mis son nom dans le psaume. Mais bien sûr, ça ne marche que, et j'ai vérifié hier soir, ça ne marche que avec la version roi Jacques. Autre chose par rapport au psaume, pour être plus sérieux, il y a toute la gamme de sentiments humains dans les psaumes. On voit des humains qui sont tristes, qui ont des doutes, qui font confiance, qui craignent, qui pleurent, qui sont en colère, qui sont dans la joie, qui parlent de leur haut et de leur bas. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, en lisant les psaumes, s'y retrouvent. Parce qu'on pourrait dire la même chose par rapport à nous-mêmes. Et puis le livre des psaumes est cité plus de 400 fois dans le Nouveau Testament. Presque autant de fois que le livre d'Ésaïe. Et une autre chose par rapport aux psaumes, il y a le chapitre le plus long. D'ailleurs, on ne dit jamais qu'il y a des chapitres dans le psaume. Quand on dit psaume, on dit, on va lire le psaume entier. On dit jamais, normalement, on va lire le psaume chapitre entier. Bon, bref. Juste, j'ai mis le mot chapitre, j'aurais pu le mettre entre guillemets. Le chapitre le plus long, vous le savez? Qui l'a appris par cœur? Le plus court, on peut apprendre par cœur. Le 117. Et chose curieuse, et j'ai pas vérifié, mais il paraît que le psaume ou le chapitre de la Bible pile poil au milieu, c'est le psaume 118. C'est ce qu'on dit. Je vous laisse vérifier, mais pas prendre mon message. Alors, dans le psaume 107, il y a 4 strophes et nous allons lire les 2 premières strophes. La première strophe, c'est du verset 4 à 9, après l'introduction, verset 1, 2 et 3, qui concerne des gens qui se sentent perdus. La deuxième strophe, versets 10 à 16, concerne des gens qui vivent dans les ténèbres. Mais ils vivent dans les ténèbres à cause de leur péché. Il y a un lien dans ce psaume entre péché et ténèbres, ténèbres et péché. Le troisième couplet concerne les gens qui sont malheureux et qui se sentent coupables, parfois sans vraiment savoir pourquoi. Et le quatrième couplet, versets 23 à 43, concerne des gens qui sont sur le point de couler, les naufragés, et qui n'en peuvent plus. Alors nous allons nous limiter à la lecture des premiers versets, donc des 2 premières strophes, à savoir versets 1 à 16. Et on va aussi lire le tout dernier verset du psaume. Donc je vous invite à écouter la lecture de ce psaume du verset 107, du verset 1 à 16, et puis le verset 43. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Ils erraient dans le désert, en chemin dans des lieux arides, sans trouver de ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. Ceux qui habitaient dans les ténèbres et l'ombre de la mort étaient prisonniers de la misère et des chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il a humilié leur cœur par la souffrance. Ils trébuchaient et personne ne les secourait. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Il les a fait sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il a arraché leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a mis les portes de bronze en pièces. Il a brisé les verrous en fer. Et le dernier verset est le verset 43. Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Être attentif aux bontés de l'Éternel. Les versets 1, 2 et 3, c'est un peu le prologue de ce psaume. Et ces versets constituent à la fois un appel et un rappel. Le rappel, c'est Dieu est bon. Vous connaissez le chant, Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, c'est un appel et c'est aussi un rappel. Et Dieu doit être loué, loué l'Éternel, parce qu'il est bon. Et dans ces versets, nous lisons trois choses par rapport à la bonté de Dieu. Sa bonté est éternelle. C'est marqué noir sur blanc. Sa bonté est personnelle pour chacun des rachetés, avons-nous lu. Ça veut dire pour chaque chrétien, la bonté de Dieu est personnelle. Et sa bonté est universelle. Il y a des gens ici qui viennent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous avons chanté pendant le premier cantique ce matin? Il est question de ceux qui viennent des quatre coins de l'horizon. Intéressant. Les quatre coins de l'horizon. La bonté de Dieu est universelle. On peut aussi dire que la bonté de Dieu est réelle, la bonté de Dieu est fidèle, à tel point qu'au psaume 136, 26 fois, nous lisons « Sa bonté dure éternellement ». Il y a 26 versets au psaume 136 et 26 fois, on lit « La bonté de Dieu dure éternellement ». D'où l'importance d'être attentif aux bontés de Dieu. On peut facilement oublier que Dieu est bon, qu'il est plein de bonté. On peut facilement oublier les bontés de Dieu. D'où le rappel, soyons attentifs. Vous connaissez le début du psaume 103 peut-être. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, tout à fait. La suite du psaume est dans un sens un flashback ou un retour en arrière. Le psalmiste repense au passé du peuple de Dieu, au peuple d'Israël, et il évoque quelques expériences. Mais ces expériences nous concernent aussi. Il pense d'abord à ceux qui sont perdus, qui sont paumés, qui sont dans un désert, versets 4 à 9. Il pense à ceux qui ont faim, qui ont soif, qui sont tout près de défaillir. Il pense à ceux qui sont sur le point de craquer. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas prié. Il est écrit, ils ont crié. Selon vous, quel mot est le plus fort? Prier ou crier? Je dirais plutôt crier. Prier, c'est important. Mais parfois, on crie, on supplie, on implore Dieu d'intervenir. Lorsque notre fils de 4 ans a fait sa première méningite, Brigitte et moi à l'hôpital, quand il hurlait la mort, quand on était à l'hôpital, non, on n'a pas prié, mais on a crié vers Dieu pour que Dieu intervienne. On a fait ça pendant sa deuxième crise de méningite et pendant sa troisième crise, quelques années plus tard. Parfois, on crie vers le Seigneur pour qu'il intervienne Il est écrit ici que Dieu les a compris. Il est écrit que Dieu les a conduits et que Dieu les a comblés. Compris, conduits, comblés. Il les a bénis. Et selon... Oui, je vais enlever ça d'abord. Voilà, ça va trop vite. Dieu les a entendus et Dieu est intervenu. Il est écrit, Dieu les a délivrés. Il y a peut-être des gens ici ce matin qui ont faim, qui ont soif, d'autres choses, qui ne sont pas contents de la médiocrité de leur vie chrétienne. Eh bien, je vous invite à prier, à supplier, à crier vers Dieu, pour que Dieu vous aide à grandir, pour que Dieu vous nourrisse et pour que vous puissiez apprendre et aller plus loin avec le Seigneur. Ce psaume nous prouve que Dieu nous comprend quand on est vraiment en bas, quand on a le moral dans les chaussettes, quand le moral est à moins 20. Je ne parle pas de la température, hein. Moins 20. Dieu nous comprend et il est prêt à nous conduire. Et c'est ce que Dieu a fait dans ce psaume. Et qu'est-ce que les gens ont fait après? Eh bien, il est écrit qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. La reconnaissance. Lorsque Dieu répond à nos prières, n'oublions pas de faire monter notre reconnaissance. Juste un petit mot. M-E-R-C-I. C'est un petit chant pour enfants de Jean-Jacques Leprince. Un petit mot. Mais soyons des chrétiens reconnaissants. Sinon, on est des chrétiens ingrats. La reconnaissance, voilà ce que Madame Onim a écrit il y a quelque temps. Est-ce que c'est lisible? Oui. C'est peut-être pas tout à fait la même police que mon ordinateur. Madame Onim, vous connaissez? Anne Onim. Voilà, vous connaissez. Elle a dit ceci. Un cœur, je répète, anonyme. Madame Onim. Bon, ok, bon, bref. Un cœur reconnaissant jouit deux fois des bénédictions. Lorsqu'il les reçoit et lorsqu'il s'en souvient. Alors, quand vous avez remercié Dieu pour une bénédiction, la semaine suivante, n'oublions pas de le remercier de nouveau quand vous vous rappelez ce qu'il avait fait. Dieu a entendu ces gens-là dans la misère. Il est intervenu. Il a entendu. Il a répondu. Deuxième groupe, versets 10 à 16. Il est question de ceux qui sont dans les ténèbres. Ils sont misérables. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à ce que Dieu leur a dit. C'est formidable de pouvoir dire à un chrétien qui est misérable à cause de son péché, « Ah ben, repens-toi et tu ne seras plus misérable. » Mais c'est difficile de se repentir. Parce que ça veut dire renoncer à. Ça veut dire arrêter de pécher. Et c'est difficile d'arrêter parce qu'on aime pécher, parce que le péché nous attire. Eux, ils étaient malheureux à cause du péché. Ils avaient méprisé les conseils de Dieu. Ils s'étaient révoltés contre Dieu. Ils avaient bravé les ordres du Tout-Puissant. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est allé les chercher. Dieu les a humiliés par la souffrance. C'est terrible de penser à ça. Mais parfois, Dieu en arrive là pour ramener une brebis galeuse dans la bergerie. Dieu les a humiliés. Et qu'est-ce que les gens ont fait? Ben, heureusement, encore, ils n'ont pas prié, mais ils ont crié à l'Éternel. Ils savaient qu'ils étaient malheureux. Et encore une fois, il est écrit, Dieu les a délivrés. Dieu les a exaucés. Dieu les a fait sortir des ténèbres. Dieu les a accompagnés dans la vallée de l'ombre de la mort et Dieu a arraché leurs liens. Dieu a brisé les chaînes qui s'étaient mis eux-mêmes à cause de leur désobéissance, à cause de leur péché. Dieu a montré que lui seul est capable de briser des portes de bronze, de casser les verrous en fer. Ils étaient misérables, mais ils allaient vivre quelque chose de mémorable. Donc, ils ont crié, ils ont prié, et voilà une citation d'un certain, oh, le nom ne paraît pas, Warren Wiersbe, un auteur bien connu dans le monde évangélique. Il a dit ceci: si tu veux vivre quelque chose de mémorable avec le Seigneur, parfois il faut accepter, pendant un temps, d'être misérable. Parfois on passe par des épreuves, mais c'est en vue de vivre quelque chose de mémorable avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous connaissez la fête de Hanouka, ça s'écrit de plusieurs manières différentes. C'est une fête qui remémore la dédicace du temple de Jérusalem à l'époque de Salomon dans 2 Rois 8. Cette fête parmi les Juifs pieux se passe pendant 8 jours. Cette fête a eu lieu il y a un mois d'ailleurs, à la même époque d'ailleurs que la fête des Lumières à Lyon. C'est vraiment curieux comme coïncidence, parce que leur fête change de date chaque année. D'ailleurs, tout comme un peu la fête des Lumières de Lyon à quelques jours près. En tout cas, la fête de Hanouka, la fête des Lumières, commence où on allume chaque branche de leur, je cherche le mot, de leur chandelier. Il y a 9 branches dans ces chandeliers-là. À ne pas confondre, bien sûr, avec le menorah qui a 7 branches. On allume les 9 branches et puis on loue le Seigneur pour sa lumière. À l'époque, le temple de Jérusalem était éclairé par des lanternes partout autour. Et lorsque Jésus arrive à Jérusalem dans Jean 8, tout est éclairé. On voit la lumière de partout. Et Jésus, qu'est-ce qu'il avait l'audace de dire? Je suis la lumière du monde. C'est pas ce bâtiment qui sera bientôt en ruine. C'est pas ce peuple. C'est pas ce pays. Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Au psaume 107, les gens marchaient dans la lumière, pardon, dans les ténèbres. Ils avaient besoin de la lumière. Et si vous vous trouvez dans les ténèbres aujourd'hui, eh bien, venez à Jésus. Que vous soyez chrétien ou pas. Parfois, des chrétiens vivent dans des lumières, dans des ténèbres. Ils ont besoin d'être éclairés. Ils ont besoin de la lumière de Dieu. Encore, ces gens-là, ils ont crié vers Dieu. Dieu les a exaucés, Dieu les a délivrés. Et il est écrit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Encore, il est question de la reconnaissance. Vous connaissez ce chant? Seigneur, que n'ai-je 1000 voix pour chanter tes louanges? Ce chant a été composé par Charles Wesley, le frère de John, tous les deux évangélistes au 18e siècle en Angleterre et outre-Atlantique. Et Charles Wesley a composé ce chant 1 an, jour pour jour, depuis sa conversion. Il était tellement reconnaissant envers Dieu, il a dit: Seigneur, si seulement j'avais 1000 voix, je pourrais chanter tes louanges. Quand il a composé en anglais, il est écrit: Seigneur, si seulement j'avais 1000 langues. En français, c'est voix. Et vous voyez le fardeau ou l'idée de l'auteur. Il était tellement reconnaissant que s'il avait 1000 voix, eh bien, il chanterait la louange de Dieu 1000 fois. C'est ça la reconnaissance. Et il y a ce chant qu'on chante parfois: 10 000 raisons. Seigneur, un jour on aura 10 000 raisons et 1 million de plus lorsqu'on sera avec toi. Bénis Dieu, ô mon âme. Bénis Dieu, ô mon âme. Il faut être prêt à être reconnaissant. Joni Erickson Tada, certaines connaissent cette femme, j'avais dit une jeune femme, mais elle a 10 ans de plus que moi. Il y a presque 60 ans. Ouais, elle est peut-être jeune aussi, hein. Il y a presque 60 ans, elle a eu un accident de plongée. Elle est paralysée depuis. Elle est mariée depuis 45 ans. Et elle avait l'habitude de se dire: il nous faut une attitude de gratitude. Facile à dire. Ça rime aussi. Mais elle, quand on l'entend chanter des louanges à Dieu, sachant qu'elle ne peut rien bouger à partir d'ici jusqu'en bas, on dit, mais elle a une attitude de gratitude. Si elle est reconnaissante, rien ne devrait m'empêcher, moi, d'être reconnaissant envers le Seigneur. Reconnaissant pour la bonté de Dieu, reconnaissant pour la puissance de Dieu. Un de mes versets préférés du livre de Jérémie est le suivant. « Ah, Seigneur éternel, voici que tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » La puissance de Dieu, la bonté de Dieu, qui font que nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Le psaume 107, on pourrait lire plus, mais on va pas lire plus. Il y a quelques années, dans une église de Los Angeles, un homme est arrivé. Première fois qu'il met ses pieds dans une église évangélique. Il était un des responsables du Gay Pride de Los Angeles. Il vient au culte, il est assis au fond de la salle, et le prédicateur lit le psaume 107. Mais les yeux de ce monsieur s'arrêtent sur le verset 16. Dieu a mis les portes de bronze en pièces. Il a brisé les verrous en fer. L'homme ne pouvait penser qu'à ce texte, parce qu'il se trouvait en prison. Il était malheureux. Il était misérable. Et il a dit, dès la fin du culte, je vais courir vers le prédicateur pour lui expliquer ma situation pour qu'il m'aide. Malheureusement, le prédicateur a commencé à prêcher. 5 minutes. 10 minutes. 15 minutes. Le monsieur était sur sa chaise, il bouillait. Il voulait partir. 50 minutes plus tard, le prédicateur a fini. Je vais être un peu plus court. À la fin de sa prédication, encore un cantique, encore une prière, mais quand est-ce que ça va se terminer? À la fin du culte, il court vers le prédicateur. Et il se présente. Je m'appelle. Je suis un des responsables du mouvement LGBTQIA+, de Los Angeles. Je suis malade. J'ai le sida. Je sais que je vais mourir. Je suis misérable. Je me trouve en prison. Et ce verset-là me dit que Dieu peut casser des portes de ma prison. Le pasteur, un certain John MacArthur, le prend dans son bureau. Ils discutent. Ils prient ensemble. L'homme s'est converti. Quelques mois, 3 mois plus tard, l'homme s'est fait baptiser. Plein de ses amis de Gay Pride sont venus pour son baptême parce qu'ils ont vu un changement radical dans sa vie et dans son attitude, même dans son regard, dans sa tête. Ils savaient tous qu'il allait mourir. Ils rendent témoignage lors du culte de son baptême. Quelques mois plus tard, il est décédé. D'ailleurs, je dois vous dire que lorsque MacArthur lui a dit, mais pourquoi vous venez dans mon église? Le monsieur dit, mais tous mes amis de Gay Pride m'ont dit que dans cette église-là, vous serez bien reçus. Il n'y avait pas un drapeau arc-en-ciel devant l'église. Beaucoup de gens savaient la prise de position de l'église par rapport à certains sujets éthiques. Mais ils savaient qu'ils seraient bien reçus dans cette église. En tout cas, le jour de son enterrement, juste quelques jours avant, les amis de Gay Pride ont contacté le pasteur pour dire, écoutez, est-ce qu'on peut faire une suggestion pour l'enterrement de notre ami? MacArthur a dit, mais allez-y, je vous écoute. Ils ont dit, est-ce que vous voulez bien faire passer la vidéo de son témoignage de baptême? C'était tellement percutant, tellement émouvant. Il faut que tout le monde à l'enterrement l'entende. MacArthur a accepté. Et Dieu a agi dans ce milieu-là, ce jour-là, et suite à ce jour-là. Parce que ce monsieur s'est rendu compte que Dieu peut casser, briser les portes qui font que nous sommes en prison. Et si c'était vrai pour ce monsieur-là, qui aujourd'hui est auprès du Seigneur, c'est vrai pour nous, quel que soit le type de prison où on se trouve. Dieu est bon, Dieu est fort. Et j'aurais envie de dire que quelle que soit notre détresse, quelle que soit notre tristesse, quelle que soit nos maladresses, et quelle que soit notre adresse, si on habite au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, eh bien, le Seigneur est bon. Il est puissant. Et il désire nous aider. Cette semaine, en pensant à ce culte, j'ai chanté pas mal de fois dans ma tête un vieux gospel de Elvis. Et dans ce gospel, Elvis chante en disant « Tends ou étends ta main vers Jésus. » Et Jésus tend sa main vers toi. Reach out, he is reaching out. Étends ta main vers lui. Il étend sa main vers toi. Dans votre cœur, tout simplement, en discrétion, vous pouvez faire ça. Vous demandez au Seigneur de vous fortifier, de vous renouveler, de vous secourir, de vous délivrer. Et Dieu vous entendra. Et il agira. Que Dieu nous aide en 2024 à ne pas cesser de battre, de nous battre et à ne pas cesser de croître pour sa gloire. Amen.